au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Chaque année, en février, est attendue l'édition du rapport Schuman, un outil de référence sur l'Europe. Ce rapport annuel sur l'état de l'Union européenne constitue un document mis à la disposition d'un large public offrant une synthèse établie par les meilleurs experts sur les diverses questions et les différents enjeux qui touchent l'Europe. Pour nous présenter ce rapport annuel 2008, qui est unique, il faut le préciser, car il n'a pas d'équivalent dans les autres États de l'Union, j'ai le plaisir de recevoir le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani. Monsieur Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de venir nous présenter l'état de l'Union, une publication qui, j'imagine, mobilise une grande part de l'énergie de la Fondation Robert Schuman. Pourquoi ce rapport 2008 présente-t-il une importance toute particulière en ce moment ?
Parce qu'il fait le point sur les problèmes internes de l'Union européenne qui sont en voie de solution et qu'il se tourne résolument vers le monde qui, à bien des égards, interpelle l'Union européenne tant sur le plan économique, monétaire, que sur le plan de sa sécurité, sur le plan militaire et diplomatique.
Jean-Dominique Giuliani, je disais que ce rapport 2008 offre des analyses originales. Il y a 18 experts qui ont contribué à le rédiger. Qui sont ces experts ?
Ce sont des personnalités venues d'horizons très divers. Il y a des personnalités de tout premier plan, le président de la République française, Monsieur Nicolas Sarkozy, ou le Premier ministre et ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg, M. Jean-Claude Juncker, que vous avez reçu par ailleurs.
Et correspondant qui, étranger, absolument. Pas correspondant, membre associé étranger.
Et qui est aussi le président de l'Eurogroupe, c'est-à-dire des ministres des Finances de la zone euro, et qui fait une analyse extrêmement objective et très approfondie de l'apport de l'euro pour les États membres et les États qui ont partagé cette monnaie. Pour les autres experts, ce sont des spécialistes dans leur discipline, géographes, politologues, sociologues. Il y a notamment, je crois que c'est une première, une étude du professeur Alain Lancelot, que l'on ne présente pas, ancien membre du Conseil constitutionnel et directeur historique de Sciences Po à Paris, et sur l'état de l'opinion européenne à travers les eurobaromètres depuis leur fondation, depuis leur création.
C'est-à-dire il a l'air de trouver qu'on n'en tient pas assez compte de cette opinion européenne, d'ailleurs.
Oui, il a d'ailleurs raison, et c'est très intéressant de voir sur des séries statistiques aussi longues comment a varié l'opinion publique européenne à l'égard de cet engagement en faveur de l'unification de l'Europe qui reste très fort et qui connaît des variations au gré des situations nationales, notamment.
Et parmi ces experts, on peut citer tout de même Jacques Delarosière, puisqu'il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques et chroniqueur économique et financier sur Canal Académie et qui a participé à cet ouvrage, le rapport Schuman 2008. Vous le disiez, Jean-Dominique Giuliani, il y a, je suppose que c'est exceptionnel, une tribune dans ce rapport Schuman, une tribune de Nicolas Sarkozy, le président de la République. Ce n'est pas habituel dans les rapports, je suppose.
Non, l'année dernière, nous avions quand même une tribune de Mme Merkel qui expliquait aussi comment elle voyait la présidence allemande de l'Union européenne. Et Dieu sait si elle a été importante, puisqu'elle a permis d'adopter ce traité de Lisbonne. Là, bien sûr, nous avons eu l'honneur d'avoir une tribune du président de la République française qui est extrêmement intéressante parce que, au-delà des articles de presse, des commentaires qui sont souvent inspirés plutôt par la politique intérieure, il livre sa conception de la manière dont il entend présider l'Union européenne et qui est tout à fait à l'inverse de ce qu'on peut lire ici ou là, c'est-à-dire qu'il explique ce qui est la base de l'Union européenne, que le compromis.
Le compromis, c'est un mot qu'il utilise très souvent dans son texte.
Et la règle de fonctionnement de l'Union européenne, alors évidemment, un compromis à 27 est plus difficile qu'un compromis à 6, mais il demeure possible, on le voit tous les jours. Et ce compromis n'a rien à voir avec la compromission, c'est seulement l'exercice obligé pour décider ensemble de grandes questions fondamentales concernant l'économie, voire la diplomatie de l'Union européenne. Oui, je crois, comme tous les grands États du monde ou tous les grands espaces politiques, l'Europe est, à mon avis, interpellée par le monde, c'est-à-dire que tout le monde s'adresse à elle. Bien sûr, dans son voisinage immédiat, tout le monde veut y adhérer. On le voit bien, les Balkans occidentaux, mais aussi l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, et même plus loin, jusqu'en Asie mineure, la Turquie et d'autres. Elle est interpellée par un deuxième cercle d'États qui sont un peu plus voisins, mais dont l'économie est totalement dépendante des relations avec l'Union européenne, et j'allais dire l'évolution politique aussi, puisque le modèle européen basé sur le droit, sur les droits de la personne, sur un corpus juridique assez exceptionnel et protecteur des droits et libertés, est un véritable aimant pour le monde. Je dois dire que, à cet égard, c'est peut-être la plus grande surprise de cette Europe au bout de 60 ans d'unification, c'est de rester extrêmement attirante. Et troisième cercle plus vaste, on voit que toutes les grandes questions qui interpellent aujourd'hui la communauté internationale, que ce soit la prolifération nucléaire, la pauvreté, l'émergence d'un certain nombre de grands États-continents, questionnent l'Europe, non seulement pour savoir quelles relations établir avec ces différentes zones du monde, mais aussi quel apport l'Europe peut avoir, on voit notamment qu'en matière de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, l'Europe est à la pointe de la réflexion, de l'action, des décisions et des propositions. Elle était déjà à l'origine du protocole de Kyoto, on voit qu'elle est prête à franchir une deuxième étape, bien sûr difficile à suivre pour des pays comme la Chine, mais aussi pour les États-Unis, puisqu'il faut, amputer un peu de nos ressources économiques pour assurer un développement harmonieux de la planète. Alors, sur tous ces sujets-là, l'Europe est beaucoup plus en pointe qu'il n'y paraît. Non seulement parce qu'elle y réfléchit activement, mais parce que ses politiques communes sont très audacieuses. En matière d'environnement, c'est évident. En matière de droits individuels et collectifs, ça commence à devenir une vraie différence avec tous les autres ensembles politiques de la planète.
Alors, il y a tout de même aussi des défis très concrets à relever. Ils constituent la première partie de cet ouvrage, les défis internes de l'Europe, l'euro, le budget et la ratification du traité de Lisbonne. Alors, l'euro, que c'est justement M. Jean-Claude Juncker qui a rédigé le chapitre consacré à l'euro. Quel est le défi que représente l'euro? C'est une monnaie forte?
On voit bien que c'est une monnaie solide, stable. Le pari de l'euro a été réussi. Il a apporté stabilité et solidité dans un système monétaire un peu incertain, qui est celui, d'après 1971, les taux de change fixes et la référence des monnaies basées sur l'or, il y avait un certain désordre monétaire et on a connu ici ou là, spécialement en Europe et en France, beaucoup de dévaluations qui ont déstabilisé l'économie. Aujourd'hui, on peut dire que le pari est réussi et c'est ce que Jean-Claude Juncker, qui est en quelque sorte le président de l'Eurogroupe et de l'Eurozone, vient expliquer très calmement. On voit aussi que les déséquilibres ailleurs, qu'ils soient d'ordre économique comme aux États-Unis ou qu'ils soient d'ordre politique comme en Chine, ont des influences sur les monnaies respectives de ces États qui, elles, au contraire, baissent ou restent faibles artificiellement. Et que ce n'est pas sans poser toute une série de questions. Et la première, c'est quel ordre monétaire pour ce nouveau monde émergent ? Il faudra bien poser la question. L'Europe aborde cette discussion que j'appelle de mes voeux dans les meilleures conditions, puisqu'on peut dire qu'elle est totalement exemplaire sur la manière dont elle gère sa monnaie. Vous savez qu'en France, il y a eu quelques débats sur l'euro fort. Je dis ça entre guillemets. C'est peut-être parce que les événements politiques et sociaux de ces dernières années ne nous ont pas permis d'être aussi exemplaires qu'on souhaiterait l'être.
Il y a un autre problème parallèle à celui de la monnaie, de l'euro, c'est le budget. Et dans le chapitre que Alain Lamassou, ancien ministre, consacre au budget, il dit que le financement de l'Union, c'est-à-dire son propre budget, traverse une crise grave. Vous partagez son point de vue ?
Absolument, son papier est tout à fait intéressant. Il explique l'histoire du budget européen et ce qu'il pourrait devenir. L'histoire est très simple. À l'origine, en 1957, les dépenses européennes générées par les politiques européennes devaient être financées par des ressources européennes, c'est-à-dire essentiellement une part des droits de douane perçus sur les marchandises entrant dans l'Union européenne. Très vite, avec l'élargissement et le développement des politiques européennes, ces ressources n'ont pas été suffisantes. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où 85% des ressources de l'Union européenne, c'est-à-dire des dépenses européennes, sont couvertes par des contributions des États membres qui, bien sûr, se font tirer l'oreille. Pour la France, c'est entre 17 et 18 milliards d'euros chaque année. Et donc, les États membres ne veulent pas augmenter le budget qui est aujourd'hui d'environ 0,98%, moins de 1% de la richesse européenne.
Donc il faut revenir au principe d'origine, de changer le mode de
investissement. Donc ce que propose Alain Lamassoure, qui a fait un énorme travail au Parlement européen et avec les parlements nationaux sur ce sujet-là, c'est de trouver des recettes certaines qui permettent, par exemple, de développer une politique de recherche, une politique en faveur de la mobilité des jeunes, par exemple, dans l'éducation, au niveau qu'il convient.
Jean-Dominique Giuliani, dernier défi à relever pour l'Europe, la ratification du traité de Lisbonne. Comment voyez-vous s'annoncer cette ratification ?
Ça s'annonce plutôt bien. 5 États membres dont la France ont déjà ratifié. Je pense qu'à l'automne, nous aurons pratiquement les 2/3, voire les 3/4 des États membres qui auront ratifié.
Il y a une date limite.
Et à la fin de l'année, tout le monde devra l'avoir fait. Un seul référendum sera organisé, c'est en Irlande, vraisemblablement au mois de mai. Je crois que la constitution irlandaise est un peu rigoureuse et oblige à la tenue de ce référendum. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, même s'il faut rester prudent, dans la mesure où tous les États membres ont déclaré vouloir ratifier ce traité de Lisbonne, qui n'est plus la constitution et ne pose pas des problèmes de principe qui pouvaient gêner tel ou tel, mais qui restent nécessaires en modifiant et en rendant plus efficace le fonctionnement des institutions européennes.
Jean-Dominique Giuliani, on va marquer une courte pause avant de vous retrouver pour parler de l'Europe de la défense, puisque c'est le chapitre que vous-même vous avez rédigé dans ce rapport Schuman. On se retrouve dans un court instant. Sur notre plateau dans le studio de Canal Académie pour parler avec Jean-Dominique Giuliani de l'Europe de la défense, un chapitre qu'il a rédigé dans ce rapport Schuman sur l'Europe 2008, un rapport toujours très attendu. L'Europe de la défense, quel constat aujourd'hui peut-on faire sur ce plan ?
On constate que l'Union européenne dépense environ 200 milliards d'euros chaque année pour sa défense.
C'est beaucoup ou pas beaucoup ?
C'est moins de la moitié de ce que dépensent les Américains, et que ces dépenses sont essentiellement utilisées sur un mode national, alors que l'Union européenne souhaite développer des opérations conjointes, essentiellement de maintien de la paix, en matière humanitaire, voire, comme au Tchad, pour s'interposer et protéger des populations, mais aussi elle doit se préparer éventuellement pour ne pas avoir à l'utiliser, à être capable de faire la guerre.
Oui, et de protéger ses propres frontières aussi, ses propres États.
Et de protéger ses propres frontières. Alors, l'Union européenne n'est pas du tout profilée ou disposée, même intellectuellement, à remplir toutes ses obligations. D'abord parce que le passé de l'Europe pèse extrêmement lourd. L'Union européenne, l'unification de l'Europe, c'est le contraire de la guerre. C'est au contraire, c'est la paix, c'est le règlement des différends de manière pacifique et par le droit. Et donc, c'est quelque chose que les opinions publiques portent fortement dans leur tête et dans leur cœur, et on ne peut pas leur en vouloir. En revanche, que nous ayons besoin d'instruments militaires, c'est-à-dire à la fois d'une industrie militaire, mais aussi de capacités pour au moins protéger le territoire européen qui est l'un des plus riches du monde désormais, c'est une évidence qui commence à apparaître aux yeux de tout le monde, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, de simples missions de sécurité et bien sûr aussi de missions de projection militaire. Pour cela, un certain nombre d'initiatives sont déjà en cours. J'ai fait le calcul. Il y a pratiquement plus de 22 opérations militaires extérieures qui impliquent à un titre ou à un autre un État membre de l'Union européenne, et ceci dans le monde entier. C'est très important. L'Union aurait tout intérêt à mieux coordonner cela. Ça veut dire des outils de planification, un État-major. Ça veut dire des capacités militaires communes. Il y en a, il y a l'Eurocorps, il y a la brigade franco-allemande, il y a désormais une gendarmerie européenne. Mais on le voit bien dans les Balkans, nous avons encore besoin, lorsque nous devons nous interposer ou nous faire respecter, essentiellement faire respecter le droit la plupart du temps, nous avons encore besoin du grand allié américain.
Vous trouvez que les relations avec les États-Unis auraient besoin d'être accentuées ?
Je pense que l'Europe doit montrer sa capacité à agir et à réagir toute seule, même si au sein de l'Alliance Atlantique, un certain nombre de ces tâches peuvent être accomplies en commun. C'est une question essentielle pour l'existence politique de l'Europe sur la scène internationale, que de pouvoir démontrer une volonté et une capacité d'action militaire. C'est l'objet de l'étude que j'ai développée, qui implique un certain nombre de décisions sur le plan économique pour à la fois protéger et développer notre industrie de défense qui, aujourd'hui, en matière technologique, n'est plus vraiment différente de l'industrie civile. Et donc rayonne sur l'ensemble de l'économie et diffuse ces technologies sur l'ensemble de l'économie. Et puis aussi en matière de décision politique, je crois, contrairement à beaucoup, que c'est par l'Europe de la défense que se créera une vraie diplomatie européenne.
Vous pensez que c'est au fond la nécessité qui fait loi, c'est-à-dire c'est parce qu'on va être confronté à des engagements à prendre qu'il va falloir qu'on soit tous ensemble.
Depuis le début, c'est comme ça que marche l'Union européenne. Jean Monnet l'avait théorisé en disant « l'Europe avance sous l'empire de la nécessité ».
Voilà, absolument. Donc ça reste en effet une chose importante. Néanmoins, il faudra peut-être convaincre aussi l'opinion publique qui n'est peut-être pas convaincue de la nécessité d'une défense et d'un équipement commun et d'une politique commune. Vous pensez qu'elle est assez préparée, cette opinion publique ?
L'opinion publique européenne, à la fois, est très favorable à la mise en commun des ressources de tous les États membres en matière de défense et à la fois assez réticente, on le voit, sur l'augmentation des dépenses militaires. Donc, la voie européenne, c'est vraisemblablement d'essayer de faire davantage de choses ensemble avant d'envisager d'en faire plus.
Et puis en plus, il y a ceux qui critiquent en disant que la majorité des pays européens étant engagés au sein de l'OTAN, ça ferait doublon en quelque sorte.
Oui, absolument. Il y a 21 pays membres, je crois, de l'OTAN au sein de l'Union européenne. Je crois que c'est une fausse question qui a longtemps été mise en avant par le Royaume-Uni pour éviter que l'Union européenne ne s'intéresse trop aux questions de défense, soutenu en cela par quatre États membres qui sont neutres toujours et qui refusent de s'engager sur le plan militaire. Ceci dit, le traité de Lisbonne, pour la première fois, crée une clause instaure une clause de solidarité mutuelle en cas d'agression, une clause qui va même au-delà et qui impose à la solidarité pour faire face au terrorisme ou aux catastrophes naturelles. Et donc, c'est l'un des défis que doit relever l'Union européenne dans les mois et les années qui viennent.
Jean-Dominique Giuliani, ce rapport Schuman sur l'état de l'Union, on l'a dit, se veut un outil pratique pour tous ceux que l'Europe intéresse, les chercheurs, les décideurs, les étudiants et puis nous qui sommes de simples citoyens. Quels sont les éléments de ce rapport qui sont mis à leur disposition? Des cartes, un outil véritablement pour que ce soit pratique? Beaucoup de statistiques, je suppose.
Il y a une vingtaine de cartes originales. Mm-hmm. Chaque contribution des auteurs dont nous avons parlé est agrémenté d'une ou de deux cartes, ce qui est tout à fait unique. Et puis, pratiquement plus d'un tiers de l'ouvrage est consacré à ce que nous appelons Europe mode d'emploi, c'est-à-dire des statistiques, des tableaux présentés sous une forme pratique, aussi une chronologie des événements européens de l'année écoulée et de l'année à venir, ainsi que tous les éléments et les références que l'on peut trouver, notamment les sites internet sur lesquels on peut avoir accès rapidement à l'information européenne, qui n'est pas toujours facile à trouver.
En effet, cela représente, je suppose, un gros travail. Pour terminer, Jean-Dominique Giuliani, j'ai envie de vous poser une question toute naïve. Est-ce que l'état de l'Union est meilleur cette année que l'année passée ?
Incontestablement, il est meilleur. Ce traité de Lisbonne clôt un chapitre long de plus de 10 ans de l'Union européenne qui a cherché à réformer ses institutions tout en s'élargissant. Je crois qu'à la fin de l'année 2008, nous aurons franchi ce stade et que nous pourrons nous occuper d'autres choses. Les défis, comme vous l'avez dit, sont multiples. Il faut d'abord, en quelque sorte, mettre notre économie en état de marche pour faire face à cette mondialisation nouvelle. Il faut aussi relever des défis parfois plus angoissants. On parlait des menaces sécuritaires, terroristes.
Un défi démographique aussi en Europe, parce que les perspectives, on le sait,
exactement,
ne vont pas augmenter la population.
Il y a aussi toute une série de problèmes récurrents, et le plus important me semble être celui de la démographie, des mouvements de population. Il y a là incontestablement un champ d'investigation à explorer en commun plutôt que chacun dans son coin si on veut apporter des solutions aux problèmes quotidiens des citoyens européens comme aux problèmes de ses États membres.
Terminons en disant que l'état de l'Union a été rédigé sous la direction de Thierry Chopin, qui est directeur des études à la Fondation Robert Schuman, et Michel Fouché, professeur et diplomate, conseiller pour les affaires étrangères au sein de cette Fondation Robert Schuman. Donc, le rapport de l'Union, rapport Schuman 2008 sur l'Europe, est une publication de la Fondation Robert Schuman aux éditions Ligne de Repère, et vous pouvez consulter le dossier thématique de cet ouvrage sur le site internet www.ligne-de-repère.com. Cet ouvrage est aussi disponible dans les librairies. Et bien sûr, vous pouvez consulter le site de la Fondation Robert Schuman, www.robert-schuman.eu. Et on peut aussi recevoir la lettre électronique de la Fondation qui est publiée en 5 langues, qui elle aussi doit exiger sans doute beaucoup de travail.
Et qui est gratuite.
Et qui est gratuite. Merci Jean-Dominique Giuliani de nous avoir éclairé sur ce rapport Schuman. Alors on peut vous donner rendez-vous pour l'année prochaine puisqu'il
absolument,
est annuel.
Absolument.
Alors à l'année prochaine.
Et donc nous verrons si nous avons bien prévu
bien progressé en tout cas, espérons-le. Merci infiniment.
Merci.